Chapitre 63. Je m'appelle Thomas Hockenberry. Je suis docteur ès lettres classiques. Je me suis spécialisé dans l'étude, le commentaire et l'enseignement de l'Iliade d'Homère. J'ai été professeur titulaire pendant une trentaine d'années, les 15 dernières à l'université de l'Indiana, sise à Bloomington. Puis je suis mort. Je me suis réveillé, ou j'ai ressuscité, sur le mont Olympe, tel était le nom que lui donnaient les prétendus dieux, mais j'ai découvert par la suite qu'il s'agissait d'Olympus Mons, le grand volcan martien. Ces entités se faisant passer pour des dieux, ou bien alors leurs maîtres, dont je ne sais rien excepté que l'un d'eux s'appelle Prospero, comme le mage dans La Tempête de Shakespeare, m'ont reconstitué pour faire de moi un scoliaste, un observateur de la guerre de Troie. 10 ans durant, j'ai fait mes rapports à l'une des muses, enregistrant quotidiennement mes impressions sur des pierres parlantes, car ici même les dieux sont préalphabétisés. J'utilise pour ce qui suit un petit enregistreur électronique que j'ai shippé à bord de la Reine Mab, le vaisseau spatial Moravec. L'année dernière, il y a 9 mois à peine, les choses ont tourné à l'aigre et la guerre de Troie, telle que la conte Homère, est sortie de ses rails. Depuis, c'est la confusion la plus totale. Achille et Hector ont fait alliance pour affronter les dieux, incitant leurs camps respectifs à faire de même. Le trou de Bran reliant la Mars du présent à l'Ilium de l'Antiquité s'est refermé, si bien que les guerriers et techniciens Moravec ont fui la terre d'Ilium. Achille ayant lui aussi disparu, il est resté de l'autre côté du trou, sur une Mars d'un avenir désormais inaccessible. La guerre de Troie a repris son cours, mais Zeus s'est évanoui, et en son absence, les dieux et les déesses ont rejoint leurs champions sur le champ de bataille. Pendant un temps, on a cru que les armées d'Agamemnon et de Ménélas allaient pénétrer dans Troie. Diomède était sur le point de conquérir la cité. Puis Hector est sorti de sa retraite. C'est avec un certain intérêt que j'ai constaté ce parallèle avec la longue bouderie d'Achille dans la véritable Iliade. Et le fils de Priam s'est empressé de tuer le puissant Diomède en combat singulier. Le lendemain, me dit-on, Hector a triomphé d'Ajax, Ajax le Grand, celui de Salamine. D'après Hélène, Ajax a imploré la pitié d'Hector, mais celui-ci l'a tué sans sourciller. Le même jour, Ménélas, l'ex-mari d'Hélène, celui-là même qui est à l'origine de cette putain de guerre, a reçu dans l'œil un trait mortel. Puis, comme je l'avais déjà constaté à maintes reprises au cours de mes 10 années d'observation, le cours de la guerre a brusquement changé et les dieux favorables aux Achéens ont lancé une contre-attaque menée par Athénée et Érée, tandis que Poséidon faisait trembler la terre, détruisant une partie d'Ilium, et Hector et les siens ont dû battre en retraite. On me dit qu'Hector a porté sur le dos son frère blessé, l'héroïque Déiphobe. Mais, il y a 2 jours, alors que Troie était à nouveau sur le point de tomber, succombant aux assauts des Achéens en furie, aidés des puissants dieux et déesses favorables à leur cause, Apollon à l'arc d'argent se révélant impuissant face à Athénée, Érée et Poséidon réunis, Zeus a refait son apparition. À en croire Hélène, Zeus a désintégré Érée, précipité Poséidon dans l'abîme du Tartare et ordonné aux autres dieux de retourner à Olympos. Ces êtres naguère tout-puissants qui se comptaient par vingtaines, volant dans des chars dorés et caparaçonnés dans des armures dorées, se sont aussitôt téléportés à Olympos, pareil à des enfants dissipés tremblant devant la menace d'une fessée paternelle. Et c'est maintenant au tour des Grecs de prendre une déculottée. Zeus, qui à en croire Hélène était si grand qu'il frôlait les stratocumulus, a tué des milliers d'entre eux et repoussé les autres vers la mer pour déchaîner sa foudre sur leur nef noire. Toujours d'après Hélène, le roi des dieux a ensuite fait déferler une vague gigantesque qui a englouti les carcasses calcinées des nefs en question. Puis Zeus a disparu pour ne plus revenir. 2 semaines plus tard, après que les deux camps eurent incinéré leurs milliers de morts et accompli 9 jours de rites funéraires, Hector a lancé une contre-attaque et repoussé les Grecs encore plus loin. Apparemment, sur 100 000 guerriers argiens, il n'en reste plus que 30 000 survivants, pour la plupart blessés et démoralisés à l'instar de leur chef Agamemnon. Comme ils ne peuvent ni prendre la mer ni gagner les forêts du mont Ida pour se procurer le bois nécessaire à la construction de nouvelles nefs, ils ont dû s'aménager des derniers retranchements, creuser des tranchées et des chausse-trappes, lever des palissades, aménager des boyaux de communication derrière leurs lignes et ériger autour de ce périmètre de mort une lisse faite de leurs meilleurs archers et lanciers. Leur dernière heure est venue. Trois jours ont passé depuis mon retour, et je me trouve à présent dans le campement grec, un demi-cercle muré d'à peine 400 mètres de pourtour, en compagnie de 30 000 Achéens, désespérés, blottis autour des carcasses calcinées de leur nef. Ils ont le dos à la mer. Hector a tous les atouts possibles dans son jeu. Une supériorité numérique d'environ 4 contre 1, des hommes au moral d'acier et à l'estomac plein, le fumet de la viande rôtie parvient aux narines des Grecs alors même que la faim leur tenaille le ventre. Hélène et Priam pensaient qu'ils succomberaient il y a 2 jours, mais le désespoir leur a donné du courage. Un homme désespéré n'a plus rien à perdre. Et ils se battent comme des rats pris au piège. En outre, leur position défensive leur confère un certain avantage sur l'assiégeant, mais leurs réserves de nourriture s'amenuisent, ils n'ont plus accès à l'eau douce depuis que les Troyens ont barré le fleuve en amont, et la typhoïde commence à faire des ravages dans leur campement, où les conditions d'hygiène sont déplorables. Agamemnon a cessé le combat. Cela fait 3 jours que le fils d'Atrée, le roi de Mycène, le commandant en chef de cette force expéditionnaire naguère titanesque, reste planqué dans sa tente. D'après le récit d'Hélène, il a été blessé lors de la retraite générale des troupes grecques, mais à en croire les capitaines et les gardes que j'ai croisés dans le campement, il ne souffre que d'un bras cassé, autant dire d'une égratignure. Apparemment, c'est surtout le moral qui en a pris un coup. Le grand roi, la némésis d'Achille, n'a pas pu récupérer le corps de son frère Ménélas lorsque celui-ci a reçu une flèche dans l'œil. Et alors que Diomède, Ajax le Grand et les autres héros tombés au champ d'honneur ont eu droit à des funérailles dignes de ce nom, Hector a, semble-t-il, accroché le corps de Ménélas à son char pour le traîner tout autour des murailles de Troie sous les vivats de ses habitants. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour cet homme aussi sensible qu'arrogant. Plutôt que succomber à une colère vengeresse, Agamemnon s'est réfugié dans le déni et la dépression. Les autres Grecs n'ont pas besoin de ces harangues pour savoir qu'ils se battent pour leur vie. Leur état-major a subi des coupes claires. Ajax le Grand, Diomède et Ménélas sont morts, Achille et Odysseus sont disparus de l'autre côté du trou. Et c'est ce vieux bavard de Nestor qui dirige les opérations depuis 2 jours. Le guerrier est à nouveau l'objet de la vénération qu'on lui réservait par le passé, du moins parmi les rangs éclaircis des Achéens. Il est toujours là, fier sur son quadrige, pour galvaniser les Grecs lorsqu'ils semblent sur le point de céder, pour ordonner aux auxiliaires de remplacer les pieux dans les chausse-trappes et de creuser de nouvelles tranchées, de renforcer les boyaux de communication et de les équiper de gabions et d'archères pour dépêcher des jeunes garçons chez les Troyens la nuit venue afin de leur voler de l'eau. Bref, il fait tout son possible pour maintenir le moral des troupes. Antiloque et Trasimède, ses deux fils, qui ne s'étaient guère couverts de gloire, ni face aux Troyens, ni face aux dieux, se sont montrés pleins de vaillance ces 2 derniers jours. Hier, Trasimède a été blessé à 2 reprises, par une javeline puis par une flèche, mais il n'a pas baissé les bras, repoussant à la tête de ses brigades pyliennes une offensive troyenne qui aurait pu percer leur défense. Le soleil vient juste de se lever en ce 3e jour, qui est peut-être le dernier, car les Troyens ont passé la nuit à manœuvrer leurs troupes, conduisant les plus fraîches sur le front, et à déplacer quantité d'engins de siège et de terrassement. Et on distingue à présent plus de 100 000 guerriers massés autour du périmètre défensif. Si je suis venu ici avec mon enregistreur, c'est parce que Nestor a convoqué les rois survivants pour tenir conseil avec eux. Du moins ceux dont la présence au front des troupes n'est pas indispensable. Ces hommes crasseux et épuisés sont indifférents à ma présence, à moins qu'ils ne se rappellent m'avoir souvent vu auprès d'Achille lors des 8 mois de guerre contre les dieux, auquel cas on peut dire qu'ils tolèrent ma présence. Quant à l'objet rectangulaire que je tiens dans mes mains, il ne signifie rien pour eux. Comme j'ignore pour le compte de qui j'observe et enregistre les événements, si jamais je débarquais sur Olympos pour livrer le disque enregistré à la muse qui chercha naguère à me tuer, je sais quel sort elle me réserverait. Je décide d'agir comme l'érudit et le lettré que j'étais jadis, et non comme un scoliaste esclave des dieux. Et si je ne suis plus qualifié comme érudit, au moins puis-je faire office de correspondant de guerre en ces dernières heures de combat, qui marqueront sans doute la fin des Grecs et celle d'un âge de héros. Nestor.
Quelles sont les nouvelles ? Et pensez-vous que les hommes tiendront encore aujourd'hui ?
Idoménée, commandant du contingent crétois, la dernière fois que je l'ai vu, il venait de tuer l'Amazone Brémusa d'un coup de lance. Le trou de Bran s'est refermé quelques instants plus tard. Idoménée fut l'un des derniers à abandonner Achille. « Les nouvelles ne sont pas bonnes de mon côté, noble Nestor. Pour chaque Troyen que nous avons trucidé au cours des deux derniers jours, il y en a trois qui ont débarqué durant la nuit. Ils préparent leurs outils de terrassement et affûtent leurs javelines. Leurs archers sont en train de former les rangs. Cette journée sera décisive. » Ajax le Petit, si différents fussent-ils, les deux Ajax étaient aussi proches que des frères. Jamais je n'ai vu le Locrien afficher un air aussi sinistre. Les rides et les méplats de son visage, soulignés de sang et de boue, le font ressembler à un masque de kabuki. Nestor, fils de Nélé, héros de ces jours sombres. Mes guerriers locriens se sont battus toute la nuit contre les éclaireurs de Déiphobe, qui ont tenté de nous déborder sur le flanc nord du périmètre. Nous les avons affrontés jusqu'à ce que les vagues en rougissent. La tranchée devant nous se remplit de morts, les nôtres et ceux des Troyens, et l'on pourra bientôt la franchir en marchant sur les cadavres empilés sur 10 pieds de haut. Un tiers de mes hommes ont péri, les autres sont à bout de force. Hector a compensé ses pertes par des troupes fraîches. Nestor.
Podalyr, comment se porte le fils d'Atrée?
Podalyr, le fils d'Asclépios, est l'un des derniers guérisseurs des armées grecques. Avec son frère Macaon, il commande aux Thessaliens de Trica.
Noble Nestor, j'ai posé une attelle au bras d'Agamemnon. Celui-ci n'a pas daigné prendre des simples contre la douleur, et il est conscient et rationnel.
Nestor.
Pourquoi, dans ce cas, ne sort-il pas de sa tente? Son contingent est le plus important de notre armée, mais les Mycéniens se blottissent comme des femmes au centre du campement. Privés de leur chef, ils n'ont pas le cœur à se battre.
Podalyr.
Privé de son frère Ménélas, il n'a plus le cœur à se battre.
Théoucros, le maître archer, demi-frère et ami le plus proche de feu Ajax le Grand.
Alors, Achille avait raison il y a 10 mois, quand il a défié Agamemnon devant nous tous et déclaré au grand roi qu'il avait un cœur de cerf.
Il crache dans le sable. Éumel, fils d'Admète et d'Alceste, commandant des Thessaliens de fer. Achille et Odysseus parlent souvent de lui comme d'un maître d'homme.
Et où est donc Achille, l'accusateur? Ce lâche a préféré rester au pied du mont Olympos plutôt que d'affronter la mort aux côtés de ses camarades. Le tueur d'hommes aux pieds rapides se révèle possesseur d'un cœur et de pieds de cerf.
Ménestios, chef Myrmidon, l'un des lieutenants d'Achille.
Je tuerai quiconque osera dénigrer ainsi le fils de Pélée. Jamais il ne nous aurait abandonnés de son propre chef. Nous avons tous vu la déesse Athénée lui dire qu'il était tombé sous un charme d'Aphrodite.
Et Humel.
Sous le charme d'une chatte d'Amazone, oui.
Ménestios s'avance vers Éumel et tire son épée du fourreau. Nestor, s'interposant entre les deux hommes.
Il suffit! Avons-nous besoin de nous entretuer pour aider les Troyens dans leur tâche meurtrière? Arrière et Éumel! Ménestios, rengaine ton épée!
Podalyr, il s'exprime à présent en tant que dernier guérisseur des Achéens et non comme médecin personnel d'Agamemnon.
C'est la maladie qui nous achèvera. Elle vient de faire 200 morts de plus, notamment parmi les Épéens qui défendent la berge du fleuve au sud.
Polyxène, fils d'Agasthène, commandant des Épéens.
C'est la vérité, noble Nestor. Au moins 200 morts et 1 000 000 d'invalides.
Drachios, guerrier Épéen, récemment promu au grade de commandant.
La moitié de mes hommes n'ont pas répondu à l'appel ce matin, noble Nestor.
Podalyr.
La maladie se répand sans cesse.
Amphion. Autre guerrier épéen, récemment promu au grade de capitaine.
C'est l'arc d'argent de Phoebos Apollon qui nous frappe, tout comme il l'a fait il y a 10 mois, lorsque chaque nuit brûlait les cadavres de nos cadavres, tués par la maladie. Là est l'origine de la première querelle ayant opposé Achille et Agamemnon, l'origine de tous nos maux.
Podalyr.
Que Phoebos Apollon et son arc d'argent aillent se faire mettre. Les dieux, y compris Zeus, nous ont infligé le pire, et maintenant ils sont partis. Et eux seuls savent quand ils reviendront. Personnellement, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas l'arc d'argent d'Apollon qui cause cette maladie. Je pense que c'est l'eau saumâtre que nous buvons. C'est comme si nous buvions notre pisse et couchions dans notre merde. Asclépios, mon père, estimait que la maladie naissait de l'eau contaminée et...
Nestor.
Sage Podalyr, nous serons ravis d'écouter la théorie de ton père une autre fois. Pour le moment, ce qui m'importe... c'est de savoir si nous pourrons contenir les Troyens aujourd'hui et ce que mes capitaines me conseillent de faire.
Échépole, fils d'Anchise.
Nous devrions nous rendre.
Trasimède. Fils de Nestor, il s'est illustré la veille sur le champ de bataille.
Ces blessures, quoique soignées et pansées, le font encore plus souffrir aujourd'hui.
Nous rendre ? Mon cul ! Qui parmi nous serait assez lâche pour nous suggérer de nous rendre ? Présente-moi ta reddition, fils d'Anchise, et j'abrégerai tes souffrances aussi sûrement que le feraient les Troyens.
Équépole.
Hector est un homme honorable. Le roi Priam l'a été jadis, et peut-être l'est-il encore. J'ai accompagné Odysseus à Troie lorsqu'il a tenté de lui faire entendre raison, de le convaincre de restituer Hélène pour éviter la guerre. Et Priam et Hector me sont apparus comme des hommes honorables et raisonnables. Hector entendra notre requête.
Trasimède.
11 années ont passé durant lesquelles 100 000 âmes ont été envoyées dans l'Hadès, imbécile! Tu as pu juger de la pitié d'Hector lorsqu'Ajax le Grand l'a imploré de l'épargner, son grand bouclier réduit en pièces et son visage de héros inondé de larmes? Hector lui a tranché l'échine et arraché le cœur. Ces hommes te réserveront un sort moins enviable.
Nestor.
Je sais que certains parlent de se rendre, mais Trasimède a raison. Il a coulé trop de sang sur cette terre troyenne pour que nous puissions espérer la pitié. Nous-mêmes, si nous avions enfoncé les murailles d'Ilium il y a 3 semaines ou il y a 10 ans, aurions-nous fait preuve de pitié à leur égard ? Vous savez tous que nous aurions tué tous les hommes, jeunes ou vieux, capables d'empoigner une épée ou de bander un arc. Que nous aurions massacré les vieillards pour les punir d'avoir engendré nos ennemis. Que nous aurions violé les femmes avant de les réduire en esclavage, elles et leurs enfants en bas âge. Que nous aurions incendié leur cité et leur temple. Mais les dieux, ou les moires, ont décidé de l'issue de cette guerre et se sont retournés contre nous. Les Troyens qui ont souffert notre invasion et notre siège de 10 ans seront tout aussi impitoyables que nous l'aurions été en cas de victoire. Non, si vous entendez vos hommes parler de reddition, dites-leur que c'est pure folie. Mieux vaut mourir debout qu'à genoux.
Idoménée. Mieux vaut ne pas mourir du tout. Il n'y a donc aucune issue. Alastor, second de Théoucros.
Les nefs sont détruites. Les réserves de nourriture s'épuisent, mais nous serons morts de soif avant de souffrir de la faim. La maladie fait de plus en plus de ravages.
Ménestios.
Les Myrmidons veulent faire une sortie, enfoncer les lignes troyennes et foncer vers le sud, vers le mont Ida et ses forêts.
Nestor, il acquiesce.
Tes Myrmidons ne sont pas les seuls à envisager une telle action, courageux Ménestios. Mais tes Myrmidons ne peuvent agir seuls, pas plus qu'aucune de nos armées. Les lignes troyennes s'étendent sur plusieurs stades et leurs alliés se trouvent à l'arrière-garde. Ils s'attendent à ce que nous tentions une sortie. Sans doute se demandent-ils pourquoi nous ne l'avons pas déjà fait. Tu connais les lois de fer qui régissent le combat à l'épée, à la lance et au bouclier, Ménestios, ainsi que tous les Myrmidons et tous les Achéens. Pour un homme qui tombe les armes à la main, il y en a 100 qui tombent en prenant la fuite. Il ne nous reste plus de chars en état de marche. Hector et ses capitaines en ont des centaines. Ils nous pourchasseront et nous abattront comme des moutons avant que nous ayons franchi le lit asséché du fleuve Scamandre.
Drakios.
Alors, on ne bouge pas ? Et on crève sur cette plage, aujourd'hui ou demain, à côté des restes calcinés de nos grandes nefs noires ?
Antiloque, autre fils de Nestor.
Non, la reddition est hors de question pour tout homme digne de ce nom. Et notre position deviendra intenable dans quelques heures, peut-être même dès la prochaine attaque. Mais je suis pour que nous foncions tous en même temps.
Il nous reste encore 30 000 guerriers, dont plus de 20 000 en état de se battre et de courir. Peut-être que les 4/5 d'entre nous périront, oui, massacrés comme des moutons avant d'avoir pu se réfugier dans les forêts du mont Ida. Mais cela signifie qu'il y aura 4 ou 5 000 rescapés. La moitié de ceux-ci survivront aux battues que les Troyens et leurs alliés organiseront ensuite, telle une chasse royale traquant le cerf. Et la moitié de ces survivants arriveront peut-être à quitter ce continent de merde et à traverser la mer Vineuse pour rentrer au pays. Je suis prêt à me contenter de ces chances.
Trasimède.
Moi aussi.
Théocros.
Elles valent mieux que la certitude de voir nos os blanchir sur cette putain de saloperie de dépotoir de plage de merde.
Nestor.
Dois-je comprendre que tu votes en faveur d'une sortie, fils de Télamon ?
Théocros.
Putain de merde, je veux, seigneur Nestor.
Nestor.
Noble Épéios, nous n'avons pas encore entendu ta voix. Qu'en penses-tu ?
Épéios, il baisse la tête et danse d'un pied sur l'autre, visiblement gêné.
Épéios est le meilleur pugiliste du camp achéen et son visage porte les stigmates d'une longue carrière sportive. Oreilles en chou-fleur, nez aplati, joues et arcades sourcilières couturées de cicatrices, crâne rasé et bien amoché. Je ne peux m'empêcher d'avoir un sourire ironique en considérant sa présence en ce lieu et le rôle que j'ai joué dans son destin. Peu connu pour ses prouesses guerrières, Épéios aurait remporté les épreuves de pugilat accompagnant les funérailles de Patrocle, épreuve organisée par Achille, puis dirigé la construction du cheval de bois imaginé par Odysseus. Si je n'avais pas mis mon grain de sable dans le récit de la Hède il y a un peu moins d'un an. Épéios participe au conseil parce que ses officiers supérieurs, à savoir Ménélas et ses subalternes, sont tous morts.
Seigneur Nestor, c'est quand l'adversaire est sûr de sa victoire, qu'il traverse l'arène, persuadé que tu es étendu pour le compte, terrassé pour de bon. C'est à ce moment-là qu'il faut le frapper de toute ta force. Dans notre cas, nous devons frapper fort, étourdir l'ennemi, lui faire mordre la poussière et filer à toutes jambes. Un jour, aux Jeux Olympiques, j'ai vu un pugiliste agir exactement de la sorte.
Hilarité générale. Épéios.
Sauf que nous devrons agir durant la nuit.
Nestor.
Je suis d'accord. Le champ de bataille est trop vaste et les chars troyens trop rapides pour que nous tentions le coup en plein jour.
Mérion, fils de Mol, ami d'Idoménée et capitaine crétois.
La nuit ne sera guère plus propice. La lune est aux trois quarts pleine.
Laërcès, un myrmidon, fils d'Aemon. Mais le soleil se couche plus tôt en cette saison et la lune se lève plus tard cette semaine. Nous disposerons de 3 heures entre la tombée de la nuit, une nuit noire où on a besoin d'une torche pour se déplacer, et le lever de la lune. Nestor.
La question est la suivante. Pourrons-nous tenir jusqu'à la fin du jour? Et nos hommes auront-ils assez de force pour se battre? Nous devrons concentrer notre attaque afin d'ouvrir une brèche dans les lignes troyennes, puis pour parcourir les 150 stades et quelques qui nous séparent des forêts du mont Ida.
Idoménée. Ils trouveront en eux la force nécessaire s'ils savent qu'ils ont une chance de survivre cette nuit. Je propose que nous attaquions les Troyens au centre de leur ligne, là même où se placera Hector, car aujourd'hui, ils ont concentré leur force sur les flancs, et je vote pour que nous fassions une percée cette nuit. Nestor.
Que dit le reste d'entre nous? J'ai besoin de l'opinion de tous. Nous agirons tous ensemble ou pas du tout. Il n'y aura pas de demi-mesure.
Podalyre.
Nous devrons abandonner les malades et les blessés, et il y en aura des milliers de plus ce soir. Les Troyens les massacreront. Peut-être iront-ils jusqu'à les torturer, frustrés d'avoir vu certains d'entre nous leur échapper.
Nestor.
Oui. Mais ainsi le veulent les lois de la guerre et du destin. J'attends vos votes, nobles chefs achéens.
Thrasymède.
Je vote, oui. Tentons le coup cette nuit, et que les dieux veillent sur les blessés et sur leurs prisonniers.
Théoucros.
Que les dieux aillent se faire enculer. Je vote oui. Et si notre destinée est de crever sur cette plage puante, je suis prêt à défier les moires elles-mêmes. Fonçons dans la nuit noire.
Polyxène.
Oui.
Alastor.
Oui. Cette nuit.
Ajax le Petit.
Oui.
Éumel.
Oui. Jouons notre va-tout.
Ménestios.
Si le seigneur Achille était parmi nous, il chercherait à tuer Hector. Avec un peu de chance, on lui fera la peau en chemin.
Nestor.
Donc, tu votes oui. Équépol.
Équépol.
Je pense que nous mourrons tous si nous combattons ici un jour de plus. Je pense que nous mourrons tous si nous tentons une sortie. Je choisis de rester avec les blessés et de me rendre à Hector en espérant qu'il a conservé une parcelle de sa générosité et de son sens de l'honneur. Mais je ne chercherai pas à imposer cette décision à mes hommes.
Nestor.
Tu n'en auras pas la possibilité, Équépol. La plupart des guerriers suivront leur chef. Tu peux te rendre si tu le souhaites, mais je te relève de ton commandement et nomme Amphion pour te succéder. Tu peux sortir de cette tente et gagner celle des blessés, mais je t'interdis de parler à quiconque. Ta brigade n'est pas très importante et elle est postée à côté de celle d'Amphion. Toutes deux pourront se fondre l'une dans l'autre sans qu'il soit besoin de les repositionner. Amphion, cette promotion n'est valable que si tu votes en faveur d'une sortie, bien entendu.
Amphion.
Je vote oui.
Brachios. Je vote au nom de tous mes Épéens. Cette nuit, nous nous battrons, que ce soit pour mourir ou trouver le salut dans la fuite. Je tiens à revoir ma demeure et ma famille.
Éumel.
À en croire Agamemnon et ses hommes, et les Moravec ont confirmé leurs propos, nos cités et nos demeures sont désertes, nos royaumes abandonnés. Les dieux ont enlevé les nôtres.
Brachios. Qu'Agamemnon, les machines Moravec et Zeus lui-même aillent se faire foutre. J'ai l'intention de rentrer chez moi pour voir si ma famille m'y attend. Ce dont je suis persuadé.
Polypotès, fils de Pirithous, commandant des Lapithes de Thessalie.
Mes hommes seront en première ligne aujourd'hui et mèneront l'offensive cette nuit. Je le jure sur les dieux.
Théoucros,
tu ne pourrais pas jurer sur quelque chose de moins capricieux? Tes boyaux, par exemple?
Hilarité générale. Nestor.
Je vote oui, moi aussi, ce qui fait l'unanimité. Aujourd'hui, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour repousser les Troyens. À cette fin, Podalyre, tu veilleras à ce que chaque homme reçoive une double ration de nourriture et qu'il en reste assez pour qu'il en emporte avec lui ce soir. Double les rations d'eau pour ce matin. N'hésite pas à te servir dans les réserves privées d'Agamemnon et de feu Ménélas. Vous tous, mes capitaines, dites à vos hommes qu'ils doivent tenir durant toute la journée. S'ils veulent mourir, que ce soit pour sauver un camarade. Et que le vrai combat se livrera à la nuit tombée. Certains d'entre nous arriveront jusqu'au mont Ida, et si le destin le veut ainsi, retrouveront leur famille et leur foyer. Les noms de ceux qui périront seront gravés pour l'éternité en lettres d'or et de gloire. Les descendants de nos petits-enfants viendront se recueillir sur les tombes qu'on nous aura creusées sur cette terre maudite, et ils diront « Oui, il y avait des hommes en ce temps-là ». Dites à vos sergents et à vos soldats de bien se restaurer ce matin, car la plupart d'entre eux dîneront dans le royaume des ombres. Cette nuit, quand la ténèbre régnera avant que la lune ne soit levée, j'autoriserai Épéios, notre pugiliste préféré, à courir parmi nos troupes pour leur crier « APT », donnant ainsi le signal du départ comme aux Jeux Olympiques. Et nous courrons alors vers la liberté.
Ainsi aurait dû s'achever la réunion, dans l'enthousiasme général, car Nestor est un leader né et sait conclure une intervention sur une note volontariste, ce dont les doyens de l'université de l'Indiana étaient parfaitement incapables, mais il faut toujours que quelqu'un vienne gâcher une parfaite conclusion. Cette fois-ci, c'est Théoucros qui s'y colle.
Théoucros.
Épéios, noble pugiliste, tu nous as pas raconté la fin de ton histoire. Qu'est devenu ce lutteur olympique qui a assommé son adversaire puis s'est enfui de l'arène en courant?
Épéios, universellement connu pour son honnêteté plutôt que pour sa sagesse.
Oh, lui. Les prêtres d'Olympie l'ont traqué dans les bois et l'ont tué comme un chien.
Les commandants achéens ont regagné le sein de leurs armées respectives. Nestor s'est retiré avec ses fils. Podalyre a pris la tête d'un peloton chargé de fouiller la tente d'Agamemnon en quête de vin et de nourriture. Je me retrouve seul sur la grève, aussi seul qu'on peut l'être au milieu de 30 000 hommes crasseux puant la trouille et la transpiration. Je palpe le médaillon Técu sous ma tunique. Nestor ne m'a pas demandé de voter. Pas un héros achéen ne m'a fait l'aumône d'un regard durant la discussion. Ils savent que je ne me bats point, mais ne semblent pas me mépriser pour autant. Ainsi, les anciens Grecs traitaient-ils les hommes qui se vêtaient comme des femmes et se peignaient le visage en blanc? Il n'est pas question ici de déshonneur, seulement d'indifférence. À leurs yeux, je suis un monstre, un étranger. Je ne suis pas tout à fait un homme. Je sais que je ne resterai pas jusqu'à la fin des hostilités. Je ne pense pas assister à l'affrontement d'aujourd'hui, car les flèches voleront bas au cours de la demi-heure qui va venir. Je ne suis plus équipé du bracelet de morphine et de l'impacto-armure que l'on donnait aux scoliastes. Je n'ai même pas pris la peine de récupérer une armure de cuir et de métal sur l'un des nombreux cadavres achéens gisant à mes pieds. En m'attardant ici, je me condamnerai à mort. Ces deux derniers jours, j'ai passé le plus clair de mon temps à rester planqué à l'arrière, près des tentes réservées aux mourants. Et même si je survivais à cette journée, la bataille de la nuit aurait raison de moi. Et pourquoi resterais-je? J'ai un appareil de téléportation quantique accroché à mon cou, nom de Dieu. En moins de 2 secondes, je pourrais être dans les appartements d'Hélène. En moins de 5 minutes, j'aurai droit à un bain bien chaud.
Pourquoi resterai-je? Mais je ne suis pas prêt à partir. Pas encore. Je ne suis plus scoliaste, et peut-être qu'un érudit ne sert à rien ici. Mais un correspondant de guerre ne raterait pour rien au monde un combat aussi glorieux, même s'il ne doit jamais le rapporter à personne. Je vais rester quelque temps. Les trompes résonnent de toutes parts. Les Troyens attaquent sur tous les fronts avant que les Achéens aient eu le temps d'avaler le petit déjeuner qu'on leur a promis.